Vous écoutez RTL.
Il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Vanessa Paradis est de retour à la chanson. Elle nous présente dans un instant, au micro de Steven Bellery, le premier extrait de son prochain album. Après 4 mois de repos forcé suite à une chute, Charles Aznavour reprend ses concerts. À suivre ses confidences au micro d'Anthony Martin, le chanteur de 94 ans évoquera sa santé, la disparition de Johnny et il s'adressera à David Hallyday. Muriel Robin est à l'honneur au Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Elle signe une performance en incarnant Jacqueline Sauvage dans un téléfilm signé Yves Régnier. Laurent Marsic a rencontré la comédienne et son réalisateur. Et puis les grandes réserves du Mobilier National ouvrent pour la première fois leurs portes au public ce week-end. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, Sophie Orange nous fera visiter ce lieu secret en avant-première.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Nous commençons en musique. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
5 ans et demi après Love Songs, Vanessa Paradis dévoile une toute nouvelle chanson.
Oui, le premier extrait de son 7e album studio, un disque qui s'appellera Les Sources, sorti prévu le 16 novembre prochain. On y retrouvera des chansons écrites par Adrien Gallo, c'est le leader des Bébés Brunes, Fabio Viscogliosi et Samuel Benchetrit, qui n'est autre que son mari depuis cet été. C'est d'ailleurs lui qui signe parole et musique du morceau que l'on découvre aujourd'hui et intitulé Ces mots simples. Vanessa Paradis présente pour RTL ce titre d'une grande classe, épurée et plein de pudeur.
C'est une chanson qui n'a pas de rythmique, en fait, au sens propre de rythmique. Il n'y a pas de batterie. C'est une chanson à la guitare, basse, mais il y a quand même pas mal de cordes et de cuivre dessus. Donc elle est épurée, mais elle est quand même supportée. C'est une chanson d'amour, c'est une déclaration d'amour. C'est une chanson qui me plaît de chanter et qui me plaît de proposer aux gens comme premier extrait de cet album, parce que plutôt que de se poser des questions, plutôt que de soulever d'autres sujets qui sont traités dans le disque, celle-là, elle était un message d'amour, un message positif. Ça me va bien, ça me plaît.
C'est aussi une chanson sans véritable refrain.
Oui, c'est particulier. Tout est dit dans le texte des couplets qui parlent de ces mots simples et que ces mots simples, ils ne sont prononcés qu'en toute fin de chanson.
Samuel Benchetrit, qui est un nouveau parolier pour vous.
Déjà, Samuel, il n'est pas que parolier sur le disque, il a fait beaucoup de musique aussi. Il avait déjà écrit des chansons, il est surtout très écrivain. Il a écrit ces chansons qui m'ont tellement plu que j'ai chanté aussi naturellement que si elles étaient arrivées d'un inconnu.
Les paroles et les musiques de Samuel, c'était des surprises? Il vous les a données sans vous en parler? Ou est-ce qu'il vous avait demandé avant, par exemple?
Quand j'ai commencé à vraiment travailler sur le disque, j'avais des musiques, moi, auxquelles il manquait des textes. Des textes que j'arrivais pas à écrire. Donc je lui ai demandé de l'aide. Puis ça l'a inspiré.
J'ai quelques mots à te dire. Des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même de temps en temps. Je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais pour dire ces mots.
Oui, ça s'appelle « Ces mots simples ». Premier single du nouvel album de Vanessa Paradis. La star lève le voile sur l'album Les Sources.
Quoi qu'il arrive, je savais que j'avais envie de beaucoup de cordes, de cuivre, de chœur, de sonorités des années 70 dans ce domaine. Ou pour les cordes, peut-être un peu plus, des sonorités plus anciennes même encore, 40, 60. J'aime les choses archi-produites et les choses très épurées. Alors l'équilibre se fait entre les chansons, en fait, parce qu'il y en a qui demandent un certain traitement et d'autres indifférents. Il y a des atmosphères différentes, il y a des atmosphères exotiques, il y a des atmosphères plus de l'Est, du Nord.
Ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir, je te m'étonne.
Vanessa Paradis sera de retour le 16 novembre. Elle m'a confié qu'elle partirait en tournée dès le printemps.
très agréable. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le nouvel album et en tout cas cette première chanson de Vanessa Paradis. Steven Bellery, dans un instant, nous vous donnerons nos audiences télévisées de la veille avec Isabelle Morini-Bosque.
Je t'aime.
Oui.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Mademoiselle Morini-Bosque, j'aimerais les audiences de la veille avec Médiamétrie, s'il vous plaît.
Ben, elle va vous les donner, séant. Eh bien, insoupçonnable, feuilleton en 10 épisodes, commence bien sur TF1. 5 300 000 téléspectateurs ont regardé Emmanuel Seigner et Melville Poupeau hier. Ça représente 25% des téléspectateurs de tous âges. En deuxième position, Envoyé spécial qui redémarre pas mal. 2 800 000 personnes et 14% du public étaient sur la 2. C'est pas un très fort score, mais c'est sa moyenne. Et en troisième position, M6 avec le film No Escape. 1 700 000 téléspectateurs côté TNT. C'est TMC avec le film Taxi Inoxydable qui marche le mieux, si j'ose dire, pour un taxi, près d'1 020 000 téléspectateurs et tous les feuilletons gardent leur moyenne habituelle.
Merci Isabelle.
Feuilleton quotidien.
Oui, j'entends bien. On ne l'a pas entendu depuis longtemps, c'est donc avec plaisir qu'on retrouve Charles Aznavour. À vos côtés, Anthony Martin, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré le chanteur de 94 ans à Paris il y a quelques jours et il reprend ses concerts dès lundi après 4 mois de repos forcé.
Oui, car en mai dernier, quelques jours avant son anniversaire, le chanteur a chuté chez lui dans sa maison du sud de la France. Charles Aznavour nous raconte ses mésaventures et nous donne de ses nouvelles.
Je vais et mal et bien. Mal parce que c'est douloureux, mais bien parce que je suis optimiste. J'ai chuté deux fois. La deuxième fois, je suis tombé sur la tête, mais la tête s'est guérie tout de suite et le bras pas. J'ai 4 fractures dans le bras, ce qui prouve que la tête sert à quelque chose.
Vous reprenez vos concerts?
Alors, je vais peut-être pas être tout à fait droit sur scène. Je vais me servir assez souvent de mon grand fauteuil. Si je suis ennuyé, je prendrai ma canne pour entrer en scène. Je crois que j'ai assez de facilité avec le public. On s'est toujours très bien entendu. Je ne vais pas faire semblant et on me prendra comme je suis.
Vous avez hâte de retrouver le public, la lumière, les applaudissements?
Oui, le public, surtout les applaudissements, plus ou moins on s'en fout.
Aux mille questions que se posent, mon esprit souvent perturbé, seule une réponse s'impose, je n'ai pas vu le temps passer.
Charles Aznavour reprend donc ses concerts. Globetrotter invétéré, il chantera lundi à Tokyo, puis à Osaka, Kiev, Bruxelles. Et Charles entamera une série de dates en France. Oui, c'est dingue. Premier concert le 8 novembre à la scène musicale près de Paris. Il se produira ensuite à Tours, Saint-Etienne, Rouen, Dijon et pour finir le 15 décembre à Strasbourg.
Et ben voilà. Alors si j'ai bien compris, bien que convalescent, il n'a jamais cessé de travailler ces derniers mois.
Non, il n'a pas changé ses habitudes. Écriture tous les jours. Il a déjà écrit 20 pages de son prochain livre, un ouvrage court pour les jeunes sur ce qui est utile et ce qu'il faut savoir avant de se lancer dans le métier d'artiste. Le livre pourrait s'appeler, m'a-t-il dit, Si tu veux, tu peux. Et Charles Aznavour a écrit des chansons, un texte notamment intitulé Vivre vieux.
On vit très bien quand on est vieux. Et parfois, souvent mieux que quand on était jeune. Parce qu'on a appris beaucoup de choses. On a appris aussi qu'il fallait abandonner beaucoup de choses. Que la vieillesse n'est pas le dernier cachot du monde. La vieillesse, ça s'apprend, ça se travaille, ça se fait aimer autant que si on était jeune. Mais surtout, il faut garder un peu du regard et du vocabulaire de l'enfance en soi. Ça, c'est très important. Ou alors là, on est vraiment vieux. Moi, je prends juste de l'âge. Je ne vieillis pas. Voilà.
Et je peux vous dire qu'à 94 ans, il a encore l'œil qui frise comme un enfant, Charles Aznavour.
Alors, il reprend la parole 9 mois après la mort de Johnny Hallyday. Hein.
Oui, Johnny répétait souvent que Charles Aznavour était son père spirituel. À ses débuts, Johnny avait vécu chez Charles. Ils ne se sont ensuite jamais vraiment perdus de vue. À l'annonce de la disparition de Johnny Hallyday, Charles Aznavour a pris le deuil à la manière arménienne, soit 40 jours de deuil pour la perte d'un être cher. Voilà pourquoi il ne s'est pas exprimé ni montré. Et aujourd'hui, c'est avec encore énormément d'émotions et en patriarche que Charles Aznavour parle de la perte de Johnny.
Il est là, moi il fait partie des gens qui me manquent, et puis c'est tout. Si on ne s'est pas vu à partir d'un certain moment, c'est que les gens ne voulaient pas tellement me voir. Étais-je dangereux? Je me le demande d'ailleurs.
Je vous sens un peu énervé.
Je n'aime pas tous ces gens qui sont venus et dont le truc, mon ami Johnny, ah quand j'étais avec Johnny quand je lui disais ça, quand Johnny m'a dit, ben, tout ça, ça m'emmerde. Et maintenant, je vais essayer de voir, son fils travaille bien, il a fait de belles choses, peut-être que je peux le prendre de temps en temps pour une mélodie. On sort pas de la famille comme ça.
Vous parlez de David, hein?
De David, oui. Je voudrais lui faire faire les orchestrations, et puis si j'ai un texte qui peut être pour un artiste, un autre que moi, lui faire faire la musique. Et je crois que c'est une famille importante. Il serait dommage que son fils ne continue pas ce que son père a commencé.
Voilà le message de Charles Aznavour et la main tendue artistique
à David Hallyday. L'élégance.
La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux.
C'est joli cette orchestration avec la corde.
C'était en 2015 sur scène.
2015 ouais, sur scène. Ouais. Merci beaucoup Anthony Martin pour ce moment passé avec, avec Charles Aznavour et notamment cette déclaration d'amitié à Johnny et à son fils David. On va parler télévision maintenant. Direction le 20e Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Bonjour Laurent Marsic.
Bonjour.
Vous suivez ce festival pour RTL. Hier soir, TF1 a présenté en avant-première Jacqueline Sauvage, téléfilm qui sera diffusé le 1er octobre à 21h. Et vous avez rencontré Muriel Robin qui incarne Jacqueline Sauvage et Yves Régnier qui lui a réalisé ce téléfilm.
Oui, Jacqueline Sauvage, souvenez-vous, c'est cette femme battue pendant 47 ans par son mari et qui finira par le tuer de plusieurs coups de fusil en 2012. La justice ne lui reconnaîtra jamais la légitime défense, la condamnant par deux fois à 10 ans de prison. Après une mobilisation de l'opinion publique, elle sera partiellement, puis totalement graciée en 2016 par le président de la République de l'époque, François Hollande. Yves Régnier a donc décidé d'en faire un téléfilm. Il parle de l'histoire extraordinaire d'une femme ordinaire.
L'histoire que Jacqueline Sauvage a vécue, elle est hors du commun. Elle est incroyable. Incroyable. Alors on dirait que c'est pas la première fois que, etc. Oui, mais cette accumulation de malheurs les uns derrière les autres, c'est-à-dire que quand on l'arrête hein, en garde à vue, on lui apprend que son fils s'est suicidé. Vous vous rendez compte? Alors elle a tué son mari. Elle se retrouve en tôle. Son fils s'est suicidé. Elle va avoir un procès. Elle se prend 10 ans de cabane. Elle a 65 ans. Elle fait appel. Mais elle veut pas, hein. Elle veut pas, elle est rétive, hein. Elle veut pas faire appel. Mais elle finit par faire appel, 10 ans confirmés un appel. Par qui? Par des femmes. Ce sont des femmes qui la jugent. Ils n'ont pas cru, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas porté plainte. Et qu'ils disent, bah, si elle n'a pas porté plainte, c'est qu'elle aimait ça, au bout de 47 ans. Et elle n'a pas porté plainte parce que les femmes, c'est ça, qu'on ne comprenne pas les juges, qu'on ne comprenne pas les gens, c'est que les femmes qui sont battues ne peuvent pas porter plainte. Parce que si elles portent plainte, elles risquent leur peau. Mais la loi devrait changer. Il devrait y avoir un rapporteur, il devrait y avoir des gens qui s'intéressent à ça et qui devraient dire on fait changer la loi. On va protéger ces femmes. C'est notre devoir.
Sous les traits de Jacqueline Sauvage, Muriel Robin, physiquement transformée, les marques de coups sur le visage, les cheveux vieillis, l'actrice offre une interprétation époustouflante, investie comme jamais dans la peau de cette femme qu'elle a rencontrée avant le tournage.
J'ai rencontré Jacqueline 4-5 mois avant le tournage, mais c'était pour la rencontrer, plus pour la prendre dans mes bras, lui dire je vais faire du mieux que je peux, puis lui dire voilà, t'es plus toute seule, enfin. Puis elle l'a vu déjà qu'elle était plus toute seule, il y a eu des pétitions. Elle a lu le scénario, elle était d'accord avec le scénario, et elle est venue un jour sur le tournage, et elle m'a vue avec ma perruque, mon vieillissement, etc. Et on s'est serré dans les bras, elle m'a dit t'es ma sœur maintenant, j'ai une sœur. Mais il y a des femmes qui regarderont ce film qui sont peut-être dans la situation de Jacqueline. Et c'est à elle que je pense en priorité. C'est peut-être
rien. Militant.
Bah tant mieux, parce qu'il y a affaire, sur ce sujet-là.
Rien ne nous est épargné, ni les coups du mari incarné par Olivier Marchal, glaçant, ni ses vociférations, celles d'un homme que Jacqueline Sauvage finira donc par abattre. Ultime geste de survie, extrait.
Il m'a frappé tellement souvent.
Comment? Avec des poings, des gifles, des objets?
Oui, tout. J'ai même fini aux urgences.
Et vous en avez parlé au médecin?
Ça va, s'il te plaît, ta nouvelle machine à coudre. Elle te plaît ! Ta nouvelle machine à coudre !
C'est pour prendre plus de travail, Norbert, j'avais de l'argent de côté.
Quoi ? Mon argent ! C'est mon argent ! C'est moi qui me crève le cul au boulot pour payer cette baraque ! C'est mon pognon ! Tu devrais avoir rendu, bordel ! Moi, Pascal, regarde ta mère ! C'est à cause d'elle, si je peux pas te payer ton cadeau d'anniversaire, tu devrais avoir rendu, bordel !
Je vous ai posé une question.
Mais tu me fais chier ! Vous faites me chier ! Félasse ! Félasse !
Voilà, vous entendez la violence hein, dans ce téléfilm incarné par Olivier Marchal.
J'imagine que sur le tournage, l'ambiance devait être un peu particulière.
Oui, c'est ce que m'ont raconté Yves Régnier et Muriel Robin.
J'ai été matraqué. Dans un premier temps, j'ai été épuisé. J'étais épuisé et pendant le tournage, je me disais, est-ce que je vais réussir à finir ce tournage? Mais c'était lourd, quoi. L'ambiance, elle était lourde.
quand on s'est quitté, on tournait à Bruxelles, on est parti en week-end, et quand on s'est retrouvé le lundi, comment c'était ton week-end? On était tous, on avait tous été avec des nuits bizarres, et Sally, mal, triste, parce que quand on le vit en faux, c'est quand même un peu vrai. Olivier Marchal, il m'attrape, il me secoue, j'avais des bleus, enfin, et c'est en faux, et c'est déjà insupportable, c'est terrible. Et on a tous évidemment en tête que ça existe, que c'est des femmes qui vivent ça tous les jours, et 150 qui en meurent par an. Donc ça laisse pas indemne, évidemment.
Et hier soir, standing ovation pour des spectateurs bouleversés à la sortie de la projection.
Émouvant, poignant, enfin, presque jusqu'aux larmes, en fait. À la fin, quand on apprend que ça a été jusqu'au viol des enfants, c'est franchement poignant, quoi.
J'ai beaucoup aimé, voilà, c'est prenant, c'est révoltant, évidemment, un sujet difficile, voilà.
Le film est bouleversant et l'histoire réelle, surtout. Ça fait froid dans le dos, quoi.
Qu'est-ce que vous avez pensé de l'interprétation de Muriel Robin?
Oh, bah, extraordinaire, Olivier Marchal aussi. Hein.
Voilà, Jacqueline Sauvage n'a pas encore vu ce téléfilm que TF1 diffusera donc le 1er octobre à 21h.
Et le Festival de La Rochelle se termine donc samedi. Merci beaucoup Laurent Marsic. Dans un instant, Sophie Orange nous emmène découvrir les grandes réserves du mobilier national.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
C'est donc la grande fête du patrimoine tout ce week-end en France. 17 100 lieux ouvrent leurs portes pour notre plus grand plaisir. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour à tous.
Vous avez dû choisir.
Et oui.
Forcément, que nous faites-vous découvrir ce matin?
Les grandes réserves du mobilier national, des
génial.
Milliers et des milliers de meubles de toutes les des époques qui permettent d'agrémenter l'Élysée, Matignon, les ministères, les ambassades aux quatre coins du monde. Une partie est entreposée au Gobelin, dans le 13e arrondissement de Paris. Et pour la première fois, ce lieu magique et mythique ouvre ses portes pour les journées du patrimoine. Vous entrerez donc dans ce bâtiment signé Auguste Perret sur un tapis rouge de 75 mètres de long. Normal, vous êtes les invités d'honneur du mobilier national. Puis ensuite, direction le deuxième étage. Là, vous entrez dans un hall immense, plus de 10 mètres de haut, des dizaines et des dizaines de mètres de long, des gigantesques étagères jusqu'au plafond où sont entreposées des merveilles, des bureaux, des fauteuils, des chaises, j'ai vu des lustres, des lits, il y a de tout, on ne sait plus où donner de la tête. Chaque meuble a une histoire, c'est cela qui fascine le directeur du mobilier national, Hervé Lemoine.
Il y a des trésors, il y a aussi des meubles qui sont peut-être pas tous des pièces exceptionnelles, mais dont l'histoire est exceptionnelle, parce qu'ils étaient dans des lieux comme évidemment l'Élysée ou des ministères, et bref, ils se sont trouvés être en quelque sorte les témoins muets d'une histoire, de l'histoire de France.
Et tiens, ce premier exemple.
Là, nous sommes devant les deux meubles boules du 17e, qui sont des meubles magnifiques ordinairement dans le bureau du président de la République à l'Élysée, avec une marqueterie d'écailles, de bronze tout à fait formidable. Le président Macron a souhaité changer la décoration de son bureau, donc ces meubles sont revenus au mobilier national, où ils ont d'ailleurs été restaurés.
Et ces meubles, vous les voyez sur toutes les photos des bureaux des présidents, donc sauf Emmanuel Macron.
Alors, sont-ils protégés et comment les conserve-t-on?
Alors, ils sont posés sur des palettes, à même le sol, pour certains, c'est un peu surprenant, quel contraste, sous des housses quand même. Mais ces housses seront évidemment enlevées pour ces journées du patrimoine. Et on va justement se déplacer dans cette réserve immense pour découvrir quatre bureaux d'anciens présidents. Carnot, Coty, Giscard et un des bureaux Mitterrand. Est-ce que vous vous souvenez de l'interview de François Mitterrand par Yves Mourouzi en 85?
Oui, évidemment.
Yves Mourouzi, voilà, assis sur un bureau avec cette question.
Vous savez ce que c'est que chez Brand? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que ça veut dire brancher, bien entendu. Je ne vais pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé.
Sauf que personne ne disait câblé à l'époque, je crois. Bon. Eh bien, ce bureau signé Paulin, très proche des Pompidou, vous le verrez au cours de la visite.
C'est un bureau métal et cuir, gainé de cuir. Comme vous le voyez, extrêmement sobre. Complètement un rectangle, très simple, avec juste un liseré d'une couleur un peu mauve, si vous voulez, qui tranche sur le bleu du bureau. Le meuble, l'objet lui-même, dénotait considérablement par sa modernité.
Paulin, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir admirer d'autre?
Incroyable atelier de menuiserie en siège, dirigé par Jérôme Allery. J'ai pas dit ébéniste, hein, j'ai dit menuiserie en siège. C'est un métier très particulier.
On va travailler sur les carcasses de chaises, fauteuils, les lits, les consoles et les torchères. Il y a la partie bois. On va aussi faire les finitions. Par exemple, là, on a une pièce du palais de l'Élysée. On va avoir des petites reprises de dorures. On est formé à ça.
Les torchères, c'est des grandes torches pour allumer à l'époque, au 18e, quand il n'y avait pas l'électricité. Oui. Et effectivement, devant nous, un fauteuil de salon des aides de camp de l'Élysée qui est en pleine restauration. On poursuit le parcours, Yves.
Bien
on
sûr.
Y va. Alors là, cette fois-ci, on va aller au sous-sol. C'est vraiment un endroit incroyable. Là, nous sommes dans les entrailles, si j'ose dire, du mobilier national.
C'est le cœur du réacteur ici. Vous avez sur palette tous ces mobiliers qui soit vont partir, soit ce sont des meubles qui reviennent pour des restaurations, pour être mis en réserve parce que l'évolution du goût fait qu'on n'en veut plus. Ils sont là en transit en quelque sorte.
Et ce jour-là, justement, sous mes yeux, des dizaines et des dizaines de chaises blanches ont été chargées dans un camion pour aller à Versailles à l'occasion du dîner servi en l'honneur du prince héritier du Japon. Juste à côté, tiens, en passant, c'est quoi ce bureau ? L'ancien bureau de Louis-Philippe très mauvais état. Il a été fracturé par les révolutionnaires. Et celui-là, eh bien, le bureau utilisé par le président lors des congrès à Versailles. Et tout au fond, des prototypes, des meubles contemporains absolument dingues, car le mobilier national est aussi un atelier de recherche et de création.
Alors, il y a évidemment des trésors à découvrir partout en France. Que nous conseillez-vous ?
Alors, pas facile. Pour changer de style, les coulisses du Crazy Horse, sur les Champs-Élysées, ça marche toujours. La Comédie Française, ça aussi, c'est assez unique. Oui. Toujours à Paris, rendez-vous 40 rue de Sèvres, l'ancien siège de l'hôpital, l'ancien hôpital de la Hennec, en fait, qui est aujourd'hui le siège de Kering, le groupe de luxe, un lieu sublime qui date du 17e. Dans la chapelle, à côté d'une quinzaine d'œuvres d'art contemporain qui appartiennent à François Pinault, un coffre historique acheté par son fils François-Henri Pinault. Il contient une dent, une phalange et un morceau de vertèbre d'Héloïse et Abélard.
Bah arrêtez, je vais pleurer.
Ce sont des vrais. C'est absolument incroyable. L'histoire fascine également Paul Michaud du groupe Kering.
Ce coffre est un objet exceptionnel. Il rassemble des reliques d'Héloïse et Abélard, qui sont un couple d'amants légendaires du Moyen-Âge, mais qui a réellement existé. Une histoire d'un amour interdit entre un clerc de la Sorbonne et une jeune fille de bonne famille. Une histoire d'amour interdit qui est une histoire vraie, moins connue que Roméo et Juliette, mais vraiment exceptionnelle.
C'est assez émouvant hein, quand même de se retrouver devant ces petites reliques. Les corps d'Héloïse et Abélard, les restes des autres sont au Père-Lachaise. Oui. En Seine-et-Marne, vous pourrez visiter la maison de retraite des artistes, ou alors à Saint-Honoré-les-Bains, tiens, dans la Nièvre, la poterie du château de la Montagne, dont la restauration sera en partie financée par la mission Berne. La famille Despeuil vous attend, sans oublier ce week-end aussi la visite des locaux de RTL et d'M6 qui font partie du patrimoine.
Eh ben c'est formidable. Dites donc, quelle fresque vous nous avez proposée.
Et on n'oublie pas le loto du patrimoine
Soir. C'est ce soir le tirage.
Avec Stéphane Bern sur TF1.
Avec Jean-Pierre Foucault.
Information RTL.
Oui, bien sûr.
Plus de concurrence quand on parle de patrimoine.
Merci beaucoup à toute l'équipe. On se sépare dans un instant. Vous avez fait votre grille ? Il faut que j'aille la faire, moi. À tout de suite pour accueillir Julien Courbet.
Ces mots simples qui font frémir et certains autres mourir. Je te m'étonne à présent. C'est mon cœur, c'est mon sang.
Merci Vanessa. C'est pas vrai, on a tous une sorte de sourire, on est dans une forme de béatitude. Alors Anthony, on se donne rendez-vous à 13h dimanche pour le Laissez-vous tenter.
Pour les meilleurs moments, justement. Voilà.
Lundi, nous aurons le plaisir d'écouter entre autres Joaquin Phoenix nous parler du dernier western de Jacques Audiard. Et puis on n'a plus qu'à retrouver notre camarade Julien Courbet. Bonjour Julien.
Merci les infos, merci Monsieur Calvi.